On passe maintenant dans la seconde partie de cette soirée. Et à partir du vécu des personnes dans les unités dédiées qui ont été mises en place en 2002, eh bien, l'équipe de recherche a étudié comment renforcer le partenariat entre les familles et les professionnels pour, in fine, améliorer la vie au quotidien des personnes qui sont dans ces unités et pour pouvoir construire un projet de soins, voire un projet de vie pour ces personnes qui ont une conscience altérée. Et c'est une recherche qui a abouti à la production de résultats, d'outils, de livrables, comme on les appelle, nous, à la FIRA, et dont on va parler avec nos intervenants. Alors, je vous les présente rapidement. Vous avez à gauche de Jean-Claude Amezen, Marianne Gourichon, qui est maman d'une jeune femme en état possirelationnel, Philippe Petit, qui est lui papa d'un jeune homme en état possirelationnel, et membre de l'UNAFTC, l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de personnes cérébro-lésées. Et puis à côté, nous avons François Tassot, qui est médecin réanimateur et qui est rééducateur, et ici en tant que présidente de l'association France Traumatisme Crânien, une association de professionnels. Et puis Anne Boissel, en bout de table, qui est responsable scientifique de la recherche et maîtresse de conférences en psychologie clinique à l'Université de Rouen. On va commencer peut-être avec vous, François. Pourquoi l'UNAFTC, l'AFTC, les associations que je viens de citer, et l'Université de Rouen ont eu envie de travailler ensemble? Quelle a été la motivation première de vous réunir à l'époque, c'était déjà il y a un petit moment, pour travailler sur ce sujet?
Le projet est né ou a pris consistance en décembre 2012, ce qui fait quand même un certain temps. Et cette date n'est pas tout à fait le hasard, puisque, comme vous l'avez dit, 2012, c'est 10 ans après 2002. C'était donc le 10e anniversaire, en quelque sorte, de la création des unités dédiées par la circulaire du 3 mai 2002. Et cette circulaire était relative à la création d'unités pour personnes en état végétatif chronique et en état post-relationnel, et préconisait de placer ces unités dans le secteur sanitaire et plus précisément dans les soins de suite et la réadaptation. Et cette circulaire avait comme particularité, qui a été très importante, on peut dire qu'il y a un avant et un après, en termes d'accueil et d'accompagnement de ces personnes. Cette circulaire avait un cahier des charges assez complet, et un des articles stipulait que les unités devaient avoir un projet de soins et un projet de vie. Et nous, notamment Philippe, parce que c'était à l'occasion d'une réunion de nos conseils d'administration, celui de l'UNFTC et celui de France Traumatisme Crânien, que nous faisions en commun, on s'est interrogé pour savoir comment le secteur sanitaire avait investi un projet de vie pour des personnes, alors que l'activité sanitaire n'est pas sa mission, est de faire des soins, et c'est très bien fait, mais pas directement de bâtir des projets de vie. Alors, nous, les deux associations, France Traumatisme Crânien et l'UNAFTC, souhaitaient y voir un peu plus clair et faire un état des lieux, un bilan, pour voir ce qui se passe et voir après ce qu'on va peut-être vous dire après dans le déroulement de la recherche.
Oui, justement, on va y venir. Et vous le disiez, ça a démarré, enfin, en tout cas, les tout débuts, c'était 2012. On est quelques années après. Il y a eu une vaste, non pas fumisterie, mais une vaste enquête qui a été menée pendant... Il y a eu 3 années de production de connaissances. Et justement, ça a été un travail... peut-être pas titanesque, mais en tout cas un travail énorme fait, et notamment Anne, vous pouvez peut-être nous dire un mot de ça, puisque vous avez aussi coordonné un peu cette enquête. Comment s'est conduite cette étude durant ces 3 années, et notamment avec les soutiens que vous avez eus, les soutiens universitaires, puisque vous avez aussi inclus dans cette recherche les étudiants qui étaient les vôtres?
Oui, donc L'idée de ce projet de recherche est venue donc des deux associations, UNFTC et France Traumatisme Crânien. Et l'équipe universitaire a été ensuite sollicitée pour monter ce projet de recherche, construire la problématique, trouver la méthodologie et conduire l'ensemble du projet. Donc, ce qui me semble absolument essentiel et au cœur de cette recherche, c'est d'abord le fait que ça soit vraiment une recherche participative, mais alors vraiment dans son essence même. Et là, le travail du réseau universitaire a apporté ses compétences vraiment plutôt au niveau méthodologique et au niveau de la conduction de la recherche. Alors, par rapport aux étudiants, ce qui est un aspect qui est aussi assez, qui est apporté effectivement, auquel je suis très attachée, c'est que cette recherche, on m'a demandé à moi en tant que maître de conférence en psychologie clinique de conduire cette recherche par rapport à d'autres travaux sur le traumatisme crânien et sur le handicap extrême. J'avais aussi à cœur que cette recherche puisse aussi avoir une influence, enfin une action sur la formation des futurs psychologues cliniciens au sein de notre université et aussi une action dans le cadre de la recherche en psychologie clinique d'une façon générale, la recherche en psychologie clinique comme recherche aussi appliquée. Donc, dès le début, effectivement, nous avons eu un groupe d'étudiants qui s'est mobilisé autour de cette recherche, que ça soit pour participer au débat, pour assister au colloque, dans le cadre de mémoires de recherche de Master 2, de participer aussi aux entretiens. Et ça ne fait que s'amplifier. Cette année, quand nous avons fait le colloque de restitution, c'était plus seulement les M1, les M2, voire les L3, il y avait même des L1, ça veut dire licence. Ceci pour dire que je suis très attachée aussi à cette participation, à cette transmission des universités dans le cadre de la formation et de la recherche.
Oui, c'est une recherche qui a été participative au-delà du groupe de départ qui avait été créé entre les différents acteurs.
Participative avec les trois partenaires, complètement.
Voilà, et
au-delà, après, c'est plutôt dans le cadre universitaire, formation-recherche. Oui.
Alors, à propos justement de la conduite de cette étude, et peut-être là c'est Marianne qui peut nous en dire un mot, mais vous avez en tant que famille participé au comité scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement le rôle de ce comité scientifique et puis surtout la façon dont vous avez vécu cette participation durant la recherche? Est-ce que ça vous a apporté en tant que famille, en tant que proche?
Oui, donc moi déjà je vais me présenter. Je suis la mère d'une jeune femme de 27 ans qui s'appelle Thaïs et qui a été accidentée il y a un peu plus de 6 ans et qui est restée en état poussi-relationnel, donc avec très très peu d'interaction sociale avec son environnement. Donc elle est accueillie dans une unité dédiée, 5 jours sur 7. Elle revient 2 jours par semaine à la maison. Donc c'est à ce titre que j'ai été sollicitée pour participer, à ce titre de famille, donc de proche, que j'ai été sollicitée pour participer à ce comité scientifique qui regroupait, en proportion égale, des représentants de famille, dont je faisais partie, et des représentants des professionnels travaillant dans ces unités dédiées. Alors bien sûr, dans ce comité scientifique, il y avait aussi M. Tasso et M. Petit, en tant que représentants des associations, et les chercheurs. Mais nous avons donc été tous sollicités à plusieurs reprises. Hein. Il y a eu, je crois, 4 réunions, mais nous avons aussi pu échanger en dehors de ces réunions, à toutes les étapes de la recherche. Nous avons également participé à la construction des outils, les outils d'enquête, questionnaires, guides d'entretien. Donc moi, je me suis vraiment, je vais parler pour moi, sentie pleinement associée à cette démarche de collaboration. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est la qualité de la relation au sein de ce comité scientifique et plus particulièrement la qualité de l'écoute. De l'écoute mutuelle, parce que moi j'ai vraiment senti un accueil, des témoignages à la fois des familles et des professionnels dans une grande bienveillance, une écoute totale, et je pense que ça a vraiment libéré la parole de chacun. Et ça m'a particulièrement touchée parce que ce n'est pas forcément, il faut que je le dise, ce que je rencontrais, moi, dans mes relations aux soignants, dans les unités où ma fille a été accueillie. Donc, oui, alors, justement, j'aurais juste rappelé que quand on est proche, maman peut-être, d'autant plus peut-être, d'un patient dans cet état-là, de grande dépendance, de grande vulnérabilité, eh bien, c'est quelquefois difficile à vivre émotionnellement. Et eh bien, quand on exprime un peu son point de vue sur la prise en charge souhaitée de son proche dans les unités, qu'on fait des propositions concernant cette prise en charge, eh bien, c'est pas forcément toujours bien vécu, parce que ça peut être reçu comme une critique concernant la qualité de la prise en charge. Il faut quand même rappeler que ces unités, ce sont des toutes petites unités qui accueillent 5 à 10 patients et qui sont un peu dispatchées dans toute la France. Elles sont très, très isolées. Jusqu'à présent, en tout cas, elles fonctionnent de façon très isolée. Et je pense que les professionnels, lors de la création de ces unités, ils ont fait un peu ce qu'ils pouvaient, chacun à sa manière, mais qu'elles fonctionnent quand même de façon très repliée. Donc, ce que j'évoque concernant mon ressenti dans la collaboration qui a lieu, puis il y a des moments, effectivement, de collaboration active, de partage, de joie même. Mais je pense que même pour les professionnels qui travaillent dans ces unités, eh bien, c'est pas forcément toujours facile non plus de faire avec les moyens, avec les contraintes. Et ça, les familles dont je suis, dont je suis toujours, mais j'ai un peu changé de regard, les familles dont je suis ne perçoivent pas toujours dans ces unités ces difficultés-là. Est-ce que je trouve que la richesse, finalement, puisque dans le cadre de ce comité scientifique, c'était pas du tout le même contexte, c'était distancié des enjeux affectifs et puis institutionnels pour les professionnels, ça a permis vraiment une expression très riche, libre et complète, et un croisement des regards très, très riche.
Et... Pardon, je ne voulais pas vous couper, mais quand vous dites unité, c'est vrai qu'on parle de lieux de vie, on les appelle aussi comme ça. Et du coup, comment vous voyez la possibilité, en tout cas, de développer ce lien affectif, social, dans ces unités, donc dans ces lieux de vie? Est-ce que, justement, cette recherche a permis de changer déjà le regard sur ces unités, mais aussi d'y voir la possibilité d'y développer ce lien affectif et social?
Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce que représente pour moi un lieu de vie et la place que doit y avoir un patient en état de conscience altérée, comme ceux qu'on évoque aujourd'hui. Je pense qu'un lieu de vie, c'est bien sûr un lieu où vit la personne, puisque je pense que c'est basique, effectivement, c'est le lieu où maintenant va vivre la personne. C'est comme ça que beaucoup de proches considèrent ces unités. Mais c'est aussi un lieu où il y a de la vie autour, donc où tout est fait pour que la personne elle ait accès à la vie autour d'elle. Donc il y a des animations qui sont proposées, il y a la participation des familles. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'un lieu de vie, c'est un lieu où la personne elle va avoir la possibilité d'exister réellement, mais en tant que personne. En tant que personne, et donc ça veut dire qu'on lui suppose une capacité d'entrer en relation, et là je vais peut-être rebondir sur ce que monsieur Axel Kahn évoquait tout à l'heure. Bien sûr, on nous dit, ces patients, il faut faire un peu le deuil d'une évolution, d'une récupération. Et ça, c'est vraiment très brutal. Mais cette étude, ce qu'elle a montré, moi, ce qui m'a vraiment particulièrement surprise et réconfortée, autant au niveau des échanges, au niveau du comité scientifique, qu'au niveau des résultats de l'enquête qui a été menée auprès des professionnels et des familles, donc dans un grand nombre d'unités, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, des signes de présence, une évolution, l'évolution, elle existe. L'évolution, elle existe bien sûr à minima. Moi, il y a un terme que je trouve qui est un petit peu trop balayé un peu rapidement, c'est l'espoir. J'ai eu l'occasion de l'évoquer en comité scientifique, du reste, parce que Bien sûr, pas un espoir démesuré, pas un espoir de récupération miraculeuse. On sait que c'est compliqué. Mais l'espoir, enfin moi, pour ce qui me concerne vis-à-vis de ma fille, l'espoir de retrouver du sens, de retrouver un lien, de retrouver une relation avec elle. Excusez-moi, les émotions.
Je vous en prie. Bah, peut-être que Philippe peut enchaîner aussi en tant que... père et membre de l'UNFTC.
Oui, et en continuité, d'autant que vous l'avez dit, je suis papa également. Ce que je voudrais dire pour remettre un peu le travail en perspective, c'est que cette recherche, c'est une succession de défis, j'allais dire de petits défis, mais il y en avait des grands, et de challenges et de paradoxes. D'abord de défis, parce que parler de projet de vie, c'est presque une provocation. Quand on parle de personnes en état végétatif chronique ou post-irrelationnel, on imagine des gens totalement privés de relations, et donc parler de projet de vie, c'est... on n'est pas loin de se moquer du monde, quoi. Par ailleurs, nos travaux, François a dit tout à l'heure, ils ont commencé en 2012. On a été sous tension très vite parce qu'on a été percuté par le débat sur la fin de vie, qui n'était pas pour nous une préoccupation a priori, parce que les personnes que nous accompagnons, que nous connaissons, eh bien, on ne les considère pas en fin de vie. D'ailleurs, elles ne sont pas en fin de vie. Mon fils, il a eu son accident il y a 17 ans, il a 30 ans aujourd'hui. Donc, s'il est en fin de vie, c'est une fin de vie qui dure vachement longtemps, puisqu'elle est plus longue que sa vie qui a précédé l'accident. Et donc, du coup, recherche sous tension. Et puis, affaire médiatique que je ne vais pas évoquer ici parce que tout le monde connaît, où on se demande si, en définitive, il est bien raisonnable de laisser vivre des gens comme ça. Alors, nous, travailler sur... un projet de vie, je vous dis pas, l'ambiance était particulière. Par ailleurs, recherche participative, c'est un défi en soi, puisque les personnes ne s'expriment pas. L'enjeu qui était le nôtre, c'était de se faire une idée de ce qu'est la vie dans ces unités, puisqu'elles existent maintenant depuis plus de 10 ans et qu'on y vit parfois longtemps. Au-delà du soin, c'est quoi la vie? Et du coup, pas question de parler de qualité de vie, puisque personne n'est légitime à parler de la qualité de vie, sauf quelqu'un qui en parle pour lui-même. Or, par définition, les personnes dont on parle ne s'expriment pas. C'est pour ça qu'on a, après y avoir beaucoup réfléchi et en avoir beaucoup discuté, opté pour parler de la vie quotidienne, parce qu'on s'est dit que si on ne peut pas parler de qualité de vie à la place de ceux qui la vivent, peut-être on peut décrire en croisant les regards ce qu'est leur vie quotidienne et en décrivant finalement la vie au quotidien, approcher une représentation de ce qu'est une qualité de vie quand on est dans une situation comme ça. Recherche appliquée, puisque on s'inscrit dans une dimension de recherche appliquée, ça aussi c'était compliqué parce que c'est pas forcément naturel pour une association de famille de concevoir l'application d'une recherche. Communiquer et adhérer aux résultats, s'approprier le rapport d'étude, ça paraît assez évident, surtout quand on a souhaité la recherche. Par contre, concevoir des livrables pour les mettre en œuvre, ça, c'est tout à fait autre chose. Et de ce point de vue-là, Philippe Chervin, il a été, je dirais, un aiguillon salutaire parce qu'il nous a beaucoup aidés à coucher de livrables effectifs. Ces livrables sont, au-delà du rapport d'études, un livre blanc qui est un recueil de témoignages, qui est issu de la phase exploratoire de l'étude, d'abord, et puis ensuite, des livrets synthétiques qui recueillent les principaux constats de l'étude à partir donc des regards croisés des familles et des professionnels et qui ont vocation du coup à aider à entrer dans la relation entre des familles, des professionnels autour de personnes dans ces situations-là. Le livre blanc a un prolongement déjà aujourd'hui puisque nos associations l'ont utilisé comme étant un outil d'interpellation
des politiques,
des pouvoirs publics.
Je vous laisse reprendre votre souffle et boire, mais justement, le livret synthèse et recommandations, enfin synthèse et préconisations qui a des recommandations à destination des proches et des professionnels. Voilà, comment concrètement ces professionnels et ces proches vont s'en emparer? Comment on peut s'assurer que ça va avoir des résultats concrets? Alors peut-être l'avis d'un proche et puis d'un professionnel après. Peut-être Marianne d'abord ou François.
Pardon, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, ce que je souhaite et ce que j'appelle vraiment de tous mes voeux, c'est que les professionnels et les familles, les proches, vraiment aient accès à ce regard beaucoup plus large de la réalité qui peut exister dans d'autres unités, d'autres projets, d'autres initiatives pour sortir de cet isolement dont je parlais tout à l'heure et qui est difficile à vivre pour tout le monde. Et je pense que c'est à cette condition que la collaboration, toute la collaboration entre les professionnels et les familles prendra vraiment un essor dans le sens d'un projet de vie centré sur les personnes accueillies et qui améliorerait vraiment leur quotidien. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir ces unités qui... je pense qu'il y a un danger à laisser ces unités un peu repliées sur elles-mêmes.
Comment les professionnels aussi vont s'emparer de ces recommandations pour éventuellement les mettre en œuvre et ouvrir ces unités?
Ce travail, d'ailleurs c'était aussi beaucoup grâce à Anne, a permis de recenser les unités dédiées existantes en France. Si je ne me trompe pas, on en a recensé 138. Alors 138, si on admet qu'il y a une dizaine... chaque unité a une dizaine de personnes, ça fait à peu près 1400-1500. On est dans les chiffres qu'on cite depuis très longtemps, d'ailleurs, sans véritable étude épidémiologique. Ça se trouve, il y en a beaucoup plus, mais enfin, on est là. Donc sur ces 138, 110 ont pu être contactés. Il y a eu beaucoup de réponses, et Anne pourra confirmer, dans ce qu'on appelait la phase quantitative, 400 questionnaires ont été envoyés par le biais des unités dédiées aux familles et 400 aux professionnels. Et le taux de réponse pour les professionnels, puisque vous m'interrogez, a été de plus de 50%, hein, de 250 à peu près, et pour les familles, 190.
195.
Combien ?
195.
195, bon, c'est encore un peu mieux. Et donc on peut dire que, pour répondre à l'interrogation de Marianne, que c'est quand même, on a touché beaucoup de gens, et le taux de réponse, c'est assez rare, hein, d'avoir plus de 50% de réponse à un questionnaire, surtout que le questionnaire, il était quand même assez long. Et on ne pouvait pas répondre, c'est pas oui, non. Il y avait quand même des. Il fallait avoir l'expérience. Donc, ça c'est une chose qui est importante et qui va nous permettre, qui fait qu'on a, je ne dis pas 138 correspondants, mais enfin, on a accès 100, à un grand nombre de cas. Après, il y a une autre remarque que je voulais faire, hein, c'est que cette recherche. Dans les unités, les professionnels qui ont répondu, qui se sont mobilisés, qui ont eu de l'intérêt, c'était les aides-soignantes et les infirmières, les kinésithérapeutes un peu plus, puis après beaucoup moins, et les médecins, c'est pas la préoccupation, je le sais aussi pour présider une association professionnelle où il y a beaucoup de médecins, ils sont plus dans l'imagerie, chercher à comprendre ce qui se passe dans ces situations, de voir si on ne peut pas trouver des méthodes pour améliorer la condition de ces personnes, mais ils ne sont pas dans le projet de vie tel qu'il a pu être décrit par Marianne et dans ce travail.
Donc on voit que ces livrets ont d'autant plus d'importance qu'ils pourront éventuellement permettre de faire changer les mentalités ou de leur apporter de l'information. Parmi les résultats de la recherche... Alors, pas direct, mais j'aimerais que Philippe nous dise un mot peut-être là-dessus, et après on donnera la parole à Jean-Claude. Mais cette recherche, elle a aussi permis à des acteurs comme vous, associatifs, de mieux appréhender quel pouvait être leur rôle et l'importance qu'ils pouvaient avoir justement au sein d'équipes de recherche et au sein de projets comme celui-là participatif. pour prendre toute leur place et apporter tous ces savoirs que seuls les proches ou les associations peuvent apporter. Ça a été aussi un des résultats de la recherche.
Oui, clairement. D'ailleurs, c'était pas, je le disais tout à l'heure, c'était pas forcément naturel ni spontané. Et donc, c'est une acquisition qu'on a fait en chemin sur qu'est-ce qu'on peut faire de ces constats et comment on va les valoriser. Et quelle est la dimension d'application qu'on peut leur donner. Les axes d'application qui sont assez évidents, c'est d'une part communiquer et faire savoir ce qu'on a observé. D'autre part, interpeller les décideurs sur ce que sont ces unités, parce que ces unités sont une spécificité française et qui sont régies aujourd'hui par une simple circulaire ministérielle, parce que à une époque, on a créé ça pour des gens qui étaient sans solution. Et on s'aperçoit, c'est une d'ailleurs des heureuses surprises de notre travail, que les professionnels se sont saisis de ce projet et ont investi, au-delà du soin, la dimension de vie. François me faisait observer en aparté tout à l'heure qu'il y a le taux de participation qui est très important, c'est-à-dire qu'il s'y joue quelque chose d'important. Et quand on leur donne la parole, ils s'expriment. Les professionnels s'expriment, les familles s'expriment. Et il y a peu de turnover, alors qu'on pourrait penser que c'est des équipes qui souffrent beaucoup. Or, les gens qui travaillent dans ces unités travaillent très longtemps dans ces unités. L'autre constat qui fait partie des choses qu'on a repris dans nos principaux
livrables, dans les livres.
Dans les principales observations, c'est que projet de vie, c'est pas forcément des élaborations très complexes. Projet de vie, c'est aussi dans les petites choses de la vie. Dans ce domaine, les soins, d'ailleurs, les soins occupent une place importante dans la vie de ces personnes, et les soins sont des temps de la relation à part entière et participent du projet de vie. Dès lors qu'on aborde toutes ces choses-là dans une qualité de relation, elles prennent un sens au regard du projet de vie. Par ailleurs, tout se joue dans l'alliance qui peut se créer entre les professionnels et les familles. Dès lors que les familles sont reconnues dans un certain nombre de compétences, de savoir-faire, de légitimité, et que les professionnels collaborent. Les expériences les plus abouties, les plus réussies qu'on a observées sont des expériences où cette alliance s'est installée.
Et a réussi, comme dans le cadre de cette recherche. Jean-Claude, une réflexion sur ce qui vient d'être dit sur cette recherche?
Oui, déjà, le rapport de recherche, je trouvais extraordinairement riche et très émouvant. Et peut-être, oui, deux réflexions. L'une sur ce que vous évoquiez, l'isolement, le fait que la détresse s'accompagne dans des tas de situations dans notre pays, de fragmentation, d'isolement, et que la recherche, vous le disiez, est une des façons de recréer le lien au-delà même de ceux qui participent à cette recherche. L'autre réflexion, c'est que je crois que c'est une des formes extrêmes et donc emblématiques de ce que peut être le soin et l'accompagnement. S'il y a soin et accompagnement, il y a sous-jacent, je ne sais pas si le terme de projet de vie convient, mais il y a quelque chose qui est la prise en compte de la vie de la personne en tant que personne. Et je crois que c'est quelque chose, là encore, qui dans toute une série de situations est extrêmement déficitaire dans notre système de santé. On traite, on répare, on fait des investigations, mais on a énormément de mal à accompagner et à soigner. Donc je crois que c'est un des exemples extrêmes où réfléchir à ce qu'est le soin et l'accompagnement, non seulement peut apporter du réconfort dans ces circonstances particulières, mais peut avoir quelque chose de pédagogique et de profondément transformant d'une façon générale. Hein, le fait que pendant très longtemps, notre système de remboursement à l'hôpital a été une tarification à l'activité technique, à l'acte réalisé, montre la difficulté qu'il y a dans tous les domaines à faire du soin et de l'accompagnement quelque chose qui est au cœur du service de santé. Donc ça m'a beaucoup frappé. C'est une réflexion sur, je dirais, sur ce qu'il y a de plus profondément humain dans tout accompagnement et dans tout soin qui devrait être le socle de notre façon de vivre ensemble, hein, au-delà de notre système de santé. Si je tente un anglicisme, non pas sur la philosophie qui le recouvre, mais simplement sur le terme, nous disons le soin pour dire l'attention que nous apportons à ce que nous faisons. Les Anglais disent « care », qui veut dire « attacher de l'importance à la personne ». « To care for somebody ». Donc je crois qu'il y a dans cette polysémie, il y a l'idée que, avant tout, c'est attacher de l'importance à la personne qui doit déterminer ce que nous faisons et pas la pratique particulière qui doit prédominer. Donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très important au-delà de ce que vous avez fait et de la situation que vous avez explorée.
Eh bien, je vais vous remercier d'avoir participé.